Amis de Radio Courtoisie, bonjour. Au micro de ce libre journal des traditions, l'abbé Alain Laurence, assisté de Benoît, que je remercie, toujours efficace et souriant. Et j'ai la joie de recevoir cet après-midi Astrid Baudry, qui nous parlera des SOS chrétiens d'Orient. Elle est tout à fait qualifiée, puisqu'elle est chargée de relations presse des SOS chrétiens d'Orient. Puis je recevrai vers 14h30 Sœur Marie-Elisabeth Dominicaine, enseignante de Fanjeau, et Adrien Peneranda, l'un et l'autre par liaison téléphonique, qui nous parleront du livre de Marcel et Marie de Corte. On dit toujours Marcel de Corte, mais c'est un ouvrage à quatre mains. Marcel de Corte et son épouse, un ouvrage consacré à leur fils Léon qui s'intitule « Deviens ce que tu es ». Ils nous en diront plus donc vers 14h30. Et à 15h, je recevrai Jean-Pierre Maugendre qui dirige l'association Renaissance catholique et qui fait paraître chez Via Romana depuis quelque temps des ouvrages, une collection en question, on peut dire. Le dernier est consacré à la nouvelle droite en question. Nous lui demanderons de nous éclairer sur ce sujet. Astrid, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Alors, vous êtes SOS chrétien d'Orient, chargé de relations presse, mais vous n'avez pas toujours été chargé de relations presse. Vous avez, comme on doit faire, vous avez travaillé pour SOS. Avant de faire travailler les autres, vous avez travaillé vous-même.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé comme volontaire en Égypte. Je suis partie 4 mois. J'ai commencé ma mission au Caire. Donc voilà, différentes actions auprès des enfants, des personnes handicapées. Et ensuite, je suis allée à Alexandrie pour la fin de ma mission. Et donc là, j'ai fait pas mal de missions, voilà, de donations alimentaires, de maraudes, d'aide aux personnes handicapées, d'aide aux enfants aussi. Et voilà, diverses choses dans les bidonvilles. Réhabilitation aussi d'appartements qui étaient complètement délabrés. À la suite de ma mission, je suis rentrée en France. Et pendant 2 ans, j'ai fait la formation des futurs volontaires avant qu'ils partent en mission. Chaque volontaire, avant de partir en mission, doit effectuer donc tout un processus de recrutement et de sélection, dont une journée de formation pour un petit peu découvrir l'association, savoir un petit peu ce qu'on fait sur place, découvrir aussi les églises orientales avec un topo de notre aumônier général. Et voilà, évidemment aussi, il reçoit une présentation de toutes les règles de sécurité à respecter sur place. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, j'ai été effectivement recrutée par SOS Chrétien d'Orient pour m'occuper des relations presse et en même temps aussi des événements. Voilà.
Et c'est à ce titre-là que je me suis dit, il faut que j'invite Astrid Baudry. Parce que vous m'aviez gentiment convié à une projection d'un film réalisé par Omerta. Et derrière Omerta, il faut le dire, il y a Régis Sommier, un grand reporter bien connu. Et il a travaillé sur SOS Chrétien d'Orient. Très précisément, il a fait un documentaire sur votre action au Liban. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce film?
Oui, tout à fait. En fait, il s'est rendu pendant 10-15 jours à peu près au Liban avec donc une personne qui est compagnie qui s'appelle Hamza Alkor. Et tous les deux, ils ont un petit peu suivi les équipes de SOS Chrétien d'Orient sur place. Ils se sont notamment rendus dans le sud avec notre chef de mission Thibaut Wallet. Et pour des donations alimentaires, des convois de donations de première nécessité. Et donc ils ont un petit peu sillonné le sud pour un petit peu filmer ce qui se passait sur place, témoigner de la réalité. Et ensuite ils se sont rendus dans le nord du pays, à Tripoli, et ils ont effectivement suivi les volontaires en donation. Et ils en ont fait un reportage. Voilà, donc c'est un très beau documentaire qui vraiment présente la situation des Libanais sur place, ce qui se passe en ce moment, et l'action de notre association SOS Chrétien d'Orient, qui essaie de venir en aide, comme on le peut, grâce aux dons de nos généreux donateurs.
Alors ce film, moi je l'ai vu dans une salle de cinéma du 5e arrondissement, mais vous allez le faire tourner évidemment, parce que c'est, je peux dire, c'est vraiment très représentatif de votre action. Alors là, en l'occurrence au Liban, mais on peut dire dans tous ces pays où il y a des chrétiens persécutés ou très appauvris par la situation conflictuelle.
Oui, tout à fait. En fait, on est présent dans plusieurs pays. On est présent en Irak, en Syrie, en Arménie, au Liban, en Égypte, en Éthiopie, au Pakistan et en Terre Sainte. Et c'est vrai qu'effectivement, on va essayer de faire un maximum de projections un peu partout en France de ce documentaire pour un petit peu montrer déjà ce qui se passe au Liban, la situation des chrétiens, montrer ce que notre association fait dans ce pays-là et essayer de sensibiliser les personnes et les donateurs un petit peu aux actions de l'association et essayer par la même occasion d'avoir toujours de nouveaux volontaires qui partent avec nous et qui créent ce pont entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident.
Alors, ce qui m'avait frappé dans cette projection, c'est que la salle était très très bigarrée, mais il y a même beaucoup de représentants de la diaspora libanaise, parce qu'il y a énormément de Libanais qui ont fui le pays, des chrétiens qui sont réfugiés en France, mais qui se souviennent justement de leur pays et qui doivent certainement aider. J'en avais un à côté de moi lors de la projection, et puis j'ai vu d'autres personnes, des Français, et puis j'ai eu la joie de retrouver un ami malgache qui était là et qui, je crois, vous rend de grands services parce qu'il doit s'occuper de votre comptabilité.
Oui, c'est Cyprien.
Vous n'êtes pas une association, comment dirais-je, franco-française. On a l'impression que c'est très, très ouvert sur beaucoup de pays et tout ce qui peut vous aider sont bienvenus.
Oui, tout à fait. Tout à fait, on a vraiment déjà, on a beaucoup de volontaires qui sont partis dans nos différents pays de mission. Aujourd'hui, on est à 3250 volontaires. Et effectivement, on a beaucoup de Français qui sont partis parce que l'association est née en France et est française. Mais on a aussi également des volontaires d'autres pays, de Suisse, de Belgique, un petit peu d'Italie, du Canada aussi parfois, et des États-Unis. Et c'est vrai que toute aide est bienvenue. Et SOS, oui, arrive à rassembler autour d'elle un petit peu des volontaires de différentes nationalités. Et voilà.
Alors, j'avais envie de vous poser quand même une question que les auditeurs de Radio Courtoisie se posent nécessairement. Vous êtes jeune, ces volontaires sont jeunes. Est-ce que ce n'est pas imprudent de se rendre dans ces pays qui sont tout sauf en paix? Vous étiez en Égypte, je connais des gens qui vont en Jordanie, il y a des gens qui se rendent en Irak. Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que sur les 3250 volontaires, la grande majorité des personnes qui sont parties avec nous sont jeunes, assez jeunes, mais pas que. On a aussi des personnes un peu plus âgées, des personnes à la retraite qui ont décidé de partir avec nous une fois la retraite commencée. Et donc, non, et c'est vrai que voilà, sur la grande majorité de jeunes qu'on envoie, alors évidemment, ce sont des pays qui sont quand même à risque, mais les volontaires sont extrêmement bien encadrés. Ils ne vont pas dans les zones qui craignent, ils ne vont pas dans les zones dangereuses et il y a vraiment un protocole de sécurité qui a été mis en place par la direction des opérations de SOS Chrétiens d'Orient, mais également aussi avec des partenaires avec lesquels on travaille. On est aussi évidemment en lien avec le ministère des Affaires étrangères qui est tout à fait au courant des actions qui sont sur place, des personnes qui sont envoyées. Les volontaires sont tout à fait déclarés auprès des autorités dès qu'elles arrivent dans les pays, mais aussi auprès de l'ambassade et du ministère des Affaires étrangères. Et voilà, donc après, toutes les règles de sécurité sont respectées, sont mises en place, et tout est fait pour que les volontaires ne soient pas
exposés
à des risques, d'accord, quels qu'ils soient.
Alors justement, une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelle est votre mission spécialement? Ces volontaires, vous nous avez donné quelques exemples. Le film donne bien aussi un aperçu très, très, très suggestif. Mais est-ce que c'est plus spécialement médical? Est-ce que c'est plutôt, j'allais dire le BTP, vous êtes obligé de reconstruire? Est-ce que vous fixez une mission ou alors c'est uniquement dicté par les besoins sur place?
Ça dépend un petit peu des pays de mission. C'est vrai que les volontaires... nous, en fait, SOS Chrétiens d'Orient a 6 piliers d'action. Le premier, ça va être l'aide d'urgence. Ensuite, il y a la réhabilitation de bâtiments ou d'églises, le développement économique et social, le développement culturel et patrimonial, l'éducation et la jeunesse, et enfin le soutien médical. Et c'est vrai que dans ces 6 domaines d'action, les volontaires vont chacun, à leur mesure, apporter une petite pièce à l'édifice. Voilà, par exemple... Vous parlez de l'éducation et de la jeunesse, les volontaires vont être mobilisés pour aller donner des cours de français, pour aller jouer avec des personnes handicapées, aller rendre visite aussi à des personnes âgées. Sur le soutien médical aussi, par exemple, quand j'étais en mission, Nous, on intervenait dans un bidonville qui est en périphérie du Caire, qui s'appelle le bidonville d'Esbet El Nahr. Et dans ce bidonville-là, il y a le centre Salam, qui a été fondé par Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, je ne sais pas si nos auditeurs situent un petit peu, mais c'est une religieuse franco-belge de la congrégation de Notre-Dame de Sion, qui a été donc envoyée en Tunisie, en Turquie, etc., et qui a terminé dans les années 70 en Égypte, et qui a été pendant une dizaine d'années à Esbet El Nahr, où elle a fondé, donc Esbet El Nahr, qui est un bidonville de chiffonniers. Les chiffonniers, ce sont les personnes qui, en fait, à la nuit tombée, vont au Caire, récupèrent tous les déchets, les ramènent dans le bidonville, et ensuite font le tri, et ils sont payés un petit peu en fonction des tris des déchets qu'ils effectuent. Et donc, Sœur Emmanuelle a vécu pendant 10 ans dans ce bidonville, a fondé le centre Salam, qui est un centre d'accueil pour les personnes, où il y a des cours pour les enfants, il y a aussi un jardin d'enfants, il y a aussi voilà, une partie soins, etc. Et c'est aussi un espace où les femmes du bidonville peuvent se rejoindre, et les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient se rendent au centre Salam pour aider. Et je me souviens d'une volontaire qui était en 5e année de médecine, et qui donnait des cours de nutrition au centre Salam, parce que là-bas, il y a énormément de problèmes d'obésité, de malnutrition. Et pour contrer cela, bah voilà, c'était tout simplement leur montrer que donner une tomate, par exemple, à son enfant, c'était meilleur pour sa santé que donner un paquet de chips. Là-bas, l'eau et les sodas sont au même prix, donc donner de l'eau, c'était meilleur pour sa santé que donner du soda. Nous, c'est des choses qui nous paraissent vraiment de base et vraiment presque limpides. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et voilà, donc c'est une des manières pour les volontaires d'aider sur place. Après, ils aident aussi en faisant la réhabilitation. Donc, comme je vous disais, dans un bidonville en périphérie du Caire, on avait réhabilité un appartement dans un bidonville qui était totalement délabré. Là, en ce moment, en Irak, il n'y a pas très longtemps, ils ont rénové des canaux d'irrigation dans le nord de l'Irak qui ont permis à un village entier de pouvoir irriguer leur verger. Et donc, c'est un petit peu effet boule de neige parce que à la suite de ça, voilà, c'est aussi l'économie qui peut se développer. Enfin, voilà, diverses
activités comme ça. Je reviens au film dont je donne le titre, « Délivre-nous du mal », donc Régis Sommier, produit par Omerta. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a bien sûr cette aide matérielle que vous apportez, mais il y a aussi une implication personnelle, un investissement, je le dis même, affectif. Parce que quand on voit vos volontaires visiter un asile d'aliénés, c'est bien ça. Et des échanges qui se produisent, tout ça fondé sur une grande foi, parce que ce sont des pays où la différence n'existe pas, on a la foi et c'est ce
on
qui
est
permet.
Fiers de le,
voilà, et,
de
et
le
on
montrer.
Le montre, exactement. Mais que je vois ces volontaires qui véritablement deviennent comme des frères, des sœurs, des plus que des amis. Enfin, vraiment, ça m'a énormément touché. Et malheureusement, une des volontaires doit partir. Son temps de mission est terminé. Et c'est un crève-cœur parce qu'il y a des liens qui se sont tissés.
Tout à fait.
Et ça, on ne peut pas dire que ce soit. Enfin, vous n'êtes pas comme ces représentants de certaines ONG qui viennent, qui distribuent de la nourriture et puis qui s'en vont quand c'est fini, dans leur gros 4x4 climatisé.
Oui.
On paye de sa personne.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un des buts aussi de l'association et qui est matérialisé de diverses manières, mais notamment par les volontaires, qui créent vraiment ce lien entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Et les volontaires, voilà, sont vraiment vivent au milieu des chrétiens, partagent les joies, les peines, les fêtes aussi, les mariages parfois, sont avec eux dans les enterrements, etc. Et c'est vrai que les missions, enfin les volontaires vraiment sont, voilà, vivent la mission avec les chrétiens d'Orient, et il y a un lien très fort qui se crée entre eux. Et c'est vrai que voilà, c'est difficile parfois de dire au revoir, de partir, surtout quand on ne sait pas forcément si on aura l'occasion de revenir un jour. Donc oui, effectivement, c'est vraiment une expérience très riche et très forte qui se vit là-bas.
Alors, je pense qu'on sort pas indemne d'une mission. D'abord, il me semble que quand on est né à Paris et qu'on est allé justement au Caire ou ailleurs, on se dit « j'ai plus le droit de me plaindre quand je rentre » parce que là, je sais ce que c'est que la vraie misère.
Ouais. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que ça donne un peu une leçon de courage aussi, et de... Oui, vraiment de courage de voir ces personnes qui vraiment n'ont rien, qui en fait se contentent de très peu, sont bien plus heureux que nous. Et vraiment, c'est un peu une claque. Moi, je me souviens, dans un bidonville, on se baladait un petit peu pour faire une donation alimentaire. Et je me souviens d'avoir vu un enfant qui jouait vraiment au milieu, mais littéralement de montagnes de déchets, et qui avait trouvé une petite ficelle et un petit sac en plastique. Et en fait, il s'amusait avec ça, avec son ami. Ils étaient mais trop contents. Et ils étaient voilà, hyper ingénieux, ils avaient réussi à faire ça. Et je me souviens aussi d'une petite dame qu'on avait été visiter, qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui avait perdu sa fille, qui avait et son fils, elle le voyait plus. Je crois que... Enfin, elle n'osait pas trop nous en parler, mais de ce que j'avais compris, il était en prison, etc. Et donc, elle nous accueille chez elle, elle nous invite à nous installer, etc. Et cette dame était vraiment très, très pauvre. Donc, c'était pour ça qu'on allait les visiter. Elle avait vraiment rien pour vivre parce qu'elle avait plus de mari et plus de fils. Et donc, elle nous installe. Et deux minutes après, enfin, pendant 2 minutes après, on ne la voit plus. Donc, on se dit, mais où est-ce qu'elle est passée ? Donc, on attend dans le salon, là, comme ça. Et en fait, 3 minutes après, elle revient avec un sac rempli de bouteilles de Pepsi. Voilà, leur boisson favorite là-bas. Et qui nous, en fait, avec le peu d'économie qu'elle avait, elle avait été nous acheter de quoi boire, parce qu'il faisait très chaud, et de quoi bien nous recevoir. Et c'est vrai que quand on voit cette dame assez âgée, qui était malade, donner tout ce qu'elle avait pour bien nous recevoir, alors que justement, nous, on venait la visiter pour l'aider, c'était vraiment une leçon de charité immense et de... Oui, vraiment très impressionnant.
Voilà une autre scène aussi dans ce film, donc, dont nous parlons délivrer du mal, c'est cette famille où ils ont une fille qui a été certainement terriblement dévastée psychologiquement par tout ce qu'elle a pu voir, les pays en guerre, donc les bombardements, que sais-je, et ils ont une foi. Ils ne se plaignent pas, ils ne se révoltent pas.
C'est une confiance en Dieu.
Une confiance en Dieu énorme. Il faut voir cela pour se dire comment est-ce qu'on peut nous encore, parce qu'il fait un petit peu chaud, parce que le métro n'est pas à l'heure, comment est-ce qu'on peut encore se plaindre quand on voit eux qui sont dans des vrais états de nécessité. Et au fond, je crois que vous leur apportez, mais ils vous apportent.
Ah oui, bien plus.
Vous leur apportez beaucoup de choses parce qu'ils ils ont besoin des premiers secours, nécessités en médicaments, ou ça. Mais je pense qu'eux ont une autre richesse que peut-être l'Occident perd. Alors vous parliez de ce pont un petit peu établi, qui n'est pas un pont uniquement humanitaire, qui est un pont spirituel entre la chrétienté d'Orient et la chrétienté d'Occident. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Tout le monde ne peut pas être volontaire, si on n'est pas encore retraité. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour SOS Chrétiens d'Orient ?
Alors écoutez, il y a plusieurs moyens d'aider les chrétiens d'Orient. Tout d'abord, c'est de parler d'eux, de ne pas les oublier, vraiment de faire connaître leur sort. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux, de faire parler d'eux, et ou alors d'inviter un représentant de l'association SOS Chrétiens d'Orient pour intervenir auprès de votre paroisse, de votre association locale, ou bien même dans vos écoles, dans les aumôneries étudiantes. Ça peut être le directeur général, ça peut être un chef de mission aussi, il rentre de temps en temps en France, en vacances notamment. Donc à cette occasion, on peut les faire intervenir auprès de votre cercle. Et aussi un autre moyen très important, c'est évidemment de les aider matériellement, et donc pour cela on a besoin de dons pour financer les différents projets. Donc comme je vous disais, ça peut être de l'aide d'urgence, ça peut être des projets de développement économique, développement de patrimoniaux, l'éducation, la jeunesse, etc.
Je vous coupe une seconde à propos de votre rôle sur le plan patrimonial. Je sais que vous êtes en relation avec un ecclésiastique de haut rang qui a sauvé un manuscrit. Vous n'avez pas lu un livre, vous ne connaissez pas.
Oui, Monseigneur Najib.
Alors, dites-nous un petit peu là. Vous voyez, j'ai une fiche à jour sur vous.
Oui, tout à fait, Monseigneur Najib, en fait, qui a récupéré les archives de Mossoul. Et qui a réussi en fait à les sauver de Daesh, et qui les a documentés aujourd'hui, et qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, effectivement.
Et donc ça, c'est en lien un petit peu avec ce que fait. Et au fond, non seulement vous voulez restaurer des églises, mais si c'est aussi des œuvres d'art,
Tout à fait. Et donc ça passe par donc la restauration d'églises, notamment l'église de Mossoul, qui a été financée grâce à deux généreux donateurs qui, via le fonds de dotation de SOS Chrétien d'Orient, ont légué une partie de leurs biens à l'association, ce qui a permis donc de restaurer cette magnifique église de Mossoul. Qui a été inaugurée, donc enfin, réinaugurée en 2023. Et pour la première fois depuis 10 ans, depuis le passage de Daesh, des cloches ont résonné dans la ville de Mossoul. Donc voilà, ça c'était un très beau projet. Après, sur le plan patrimonial, il y a aussi par exemple le centre culturel de Homs et d'Alep qui accueille des jeunes pour des cours de musique, pour des cours de danse aussi, des cours de taille de pierre. Donc voilà, c'est pas seulement le patrimoine matériel de pierre, mais aussi le patrimoine culturel qu'on essaie de...
L'artisanat.
Exactement, tout à fait, l'artisanat.
Le savon
aussi.
D'Alep.
Tout à fait, tout à fait.
Et ça, donc c'est très important, effectivement. Donc il peut y avoir cette aide, bien sûr, matérielle. Tout ça, on peut le dire, vous avez un site qui est très bien fait, vous avez aussi des dépliants. On peut, je crois que si on tape tout simplement sur un moteur de recherche SOS Chrétien d'Orient, on est tout de suite chez vous et on voit
oui,
que
tout
ça est mis à jour. Là, moi, j'avais pris, lors de cette projection du film de Régis Le Sommier, votre dernier dépliant, c'est la lettre numéro 42, c'est très bien fait. Et là, on voit justement cette église qui va être reconstruite, certainement. Alors, je vois ce titre, le nouveau martyr des chrétiens du Liban. Bien sûr, il y a cette persécution, ils sont pris là, il y a les Arabes, il y a les Israéliens, on prend des bandes sur leur terrain, etc. Mais peut-être aussi sont-ils victimes d'une forme de conspiration du silence. On a l'impression que les chrétiens d'Orient, qui sont la première chrétienté, gênent aujourd'hui. On ne veut pas en parler. Et je me demande si, au fond, même la société de production Omerta, c'est pas cela un peu, c'est l'Omerta. On parle pas trop des chrétiens. On ne veut pas trop dire parce que, non, ça fait désordre. Je sais pas. Vous avez l'impression qu'ils sont un peu oubliés, un peu négligés?
Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop aujourd'hui. On les oublie beaucoup. Et notamment dans le sud Liban, c'est vrai qu'il y a pas mal de villages chrétiens qui sont touchés. Alors que bon voilà ils ont pas vraiment grand chose à voir avec le conflit. Eux-mêmes sont attaqués et les églises aussi sont détruites, notamment l'église dont vous parlez qui est en couverture du magazine, qui aujourd'hui est totalement détruite, qui avait été touchée plusieurs fois, notamment pendant un cessez-le-feu il y a maintenant 2 ans et qui avait été touchée notamment le soir de Noël. Donc non, les chrétiens sont aussi touchés, les chrétiens sont aussi oubliés parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans ce conflit. Mais c'est important de le rappeler qu'il y a des chrétiens au sud Liban et voilà, qui sont aussi chassés de leur terre.
Et je crois que c'est ça aussi, ça fait désordre. On est dans une espèce de grand dialogue interreligieux, on a l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais qu'est-ce qui fait les frais souvent? Ce sont les chrétiens, c'est terrible. Et je crois aussi que ce qui fait beaucoup souffrir le clergé local et puis tous les responsables politiques, c'est de voir eh bien les populations s'enfuir. C'est-à-dire que un jour il y aura plus de chrétiens, alors que c'est la chrétienté d'origine dans le rite chaldéen par exemple. C'est l'araméen qui est la langue du Christ, qui sert à la liturgie. Eh bien, ils vont où ils disparaîtront, où ils s'enfuiront, enfin, où ils disparaîtront physiquement parce qu'ils auront été persécutés, et ça aussi, est-ce que vous arrivez à faire en sorte que certains ne perdent pas complètement espoir et restent ou bien reviennent chez eux, c'est possible?
Écoutez, en tout cas, j'espère. C'est vrai que c'est une des actions de l'association SES Chrétien d'Orient, justement, de faire en sorte, en tout cas, aider les chrétiens qui le souhaitent à rester sur leur terre. C'est vraiment l'objectif de l'association. Et donc voilà, c'est vrai que j'espère, en tout cas, que certains, grâce à nous, arrivent. Et notamment, ça passe par des projets de développement économique et social. Parce que si les chrétiens n'ont plus de travail, ne peuvent plus faire vivre leur famille, en fait, ils quittent leur village, ils quittent leur pays. Et c'est aussi pour ça que nous, on est là. C'est pour faire en sorte que ça n'arrive pas et que ceux qui le souhaitent puissent rester. Voilà.
Ça me semble effectivement très important. Alors, votre rentrée, qu'est-ce que vous faites? Vous avez plein de projets?
Oui, tout à fait. Alors déjà, on va voir la messe de rentrée. qui est le jeudi 10 septembre à 19h30 à Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se joindre à nous. Messe d'action de grâce, voilà, pour toutes les actions que l'association a pu réaliser et puis pour confier cette nouvelle année aussi et les projets, les salariés et aussi les donateurs. Remercier les donateurs qui peuvent aider l'association et les chrétiens d'Orient via l'association. Et ensuite, on va avoir le 6 octobre, donc un colloque sur les chrétiens d'Orient qui sera en fin de journée, donc 1h30 pour les chrétiens d'Orient. Voilà, on vous donne tous rendez-vous là-bas.
Et ça aura lieu où
Ce sera à Paris, dans le 9e arrondissement de Paris.
D'accord. Donc, on peut redonner sa date, mais tout ça est bien sûr sur le site.
Si oui, bien sûr. Site, oui, oui est... c'est en cours de
J'ai l'impression
de
qu'ils
ils
ont une très bonne chargée relations presse à SOS Chrétien d'Orient. Donc, tous les renseignements sont bien sur place. Donc, voilà. Ben, on peut... Alors, vous-même, vous avez appris un peu l'arabe là-bas. Je vous entendais prononcer les mots comme là-bas. Vous avez appris, vous parliez un petit peu avec eux, vous récitiez les prières avec eux, le « Je vous salue Marie » ou pas. Vous
oui, étiez... ben, écoutez, c'est vrai que quand on est vraiment sur place, et que parfois ça nous arrive de ne pas forcément avoir de traducteur. C'est le cas dans la majorité des actions que l'on fait, notamment les donations, etc. Mais c'est vrai que parfois on doit un peu se débrouiller. Donc voilà, on apprend un petit peu à baragouiner, à se faire comprendre pour avoir les bases, par exemple, quand on va faire les courses. Ou voilà, on donne des cours de français. Mais ce qui est assez étonnant, c'est vrai que quand on est avec les personnes âgées ou avec les enfants, en fait, il n'y a pas de barrière de la langue. On peut très bien ne pas forcément parler le même langage, mais en tout cas, on arrive quand même à se comprendre et à échanger. Et on a réussi à faire des cours de français sans parler la même langue. Enfin voilà, c'est quand même assez, assez drôle.
Ça, effectivement. Alors, est-ce que vous savez comment si on dit, je ne sais pas, je vous salue Marie, vous avez, ou le Notre Père au début?
Alors ça, non, ça, par cœur, non.
Pas encore,
par cœur, non.
C'est bien, c'est bien. Mais vous allez...
On avait des notes.
Vous allez y retourner, vous avez l'intention un jour de faire un petit
Alors,
séjour.
Pour l'instant, ce n'est pas prévu.
Non.
Mais j'aimerais bien, effectivement, y retourner bientôt, sans doute, peut-être en Terre Sainte. Pas forcément avec l'association, mais oui, peut-être en Terre Sainte un jour, j'espère.
Il y a comment, une attache particulière lorsqu'on a connu ces premières chrétientés, on s'y attache. Enfin, ça, vous voyez, je le disais, ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans le film. Vos volontaires ont du mal certainement à partir et on a du mal à les laisser partir parce qu'il y a des liens très forts humains et chrétiens et spirituels qui se sont tissés.
Bah, c'est vrai qu'on s'attache, on s'attache beaucoup et puis c'est vrai que c'est un témoignage vraiment de foi, de charité. Ils sont fiers d'être chrétiens, fiers de le dire. Et malgré tout, voilà, et certains sont persécutés ou vivent dans de grandes difficultés. Et pour autant, ils sont extrêmement courageux et ils ont l'impression de. On a l'impression d'être rien du tout à côté d'eux et vraiment d'être presque des pourris gâtés, des capricieux à côté de ce qu'eux vivent. Et ouais, non, c'est. Ils nous apportent beaucoup.
Voilà, je pense que c'est ça. Nous apportons des richesses matérielles, mais on des richesses spirituelles. J'en ai une preuve, je me souviens d'un pèlerinage que je faisais auprès de l'enfant Jésus de Prague, donc à Prague, et là il y avait un couple de Libanais qui me voyant me dit « Mais on est inquiets pour vous. En France, vos églises sont vides, et c'est pas bien. Si les églises sont vides, il y a d'autres religions qui viendront, mais vous ne serez plus chrétiens. » Et ils avaient tout à fait raison. Tandis que là, quand on va, eux, vous reconstruisez les églises, et ces églises se remplissent, quoi.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc c'est une belle leçon de courage. Un grand merci, en tout cas. On est appelé à se revoir.
Oui,
j'aimerais que vous veniez me parler de justement ce que ce religieux a fait sur ces livres qu'il a sauvés.
C'est oui, extraordinaire.
C'est il a tout oui. numérisé, il a réussi à tout. Et ça aussi, c'est important parce que ce sont les racines, c'est la mémoire.
Oui. Écoutez, on va essayer d'organiser ça.
Parfait, à bientôt. Merci
à
beaucoup.
À bientôt, monsieur Labbé. Merci.
Astrid Baudry. J'ai la joie de recevoir maintenant, mais par liaison téléphonique, Mère Marie-Elisabeth, qui est dominicaine enseignante de Fanjeaux. Ma mère, vous êtes avec moi?
Oui, monsieur l'abbé.
Parfait, c'est remarquable. Alors vous êtes du côté de Poitiers, et puis...
C'est
cela. Et puis, on descend un petit peu, et on va vers Toulouse, et on a Adrien Pelleranda, qui dirige la collection Marcel de Corte. C'est à ce titre qu'il est là, justement, parce qu'il sera question de Marcel de Corte aux éditions Aura Decima. Vous êtes là, Adrien ?
Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, chers auditeurs.
Très, très bien. Alors, oui, pour nous rafraîchir, nous, à Paris, dites-nous quelle est la température à Toulouse ?
Oh, on est, je pense, autour de 37 ou 38 degrés. Donc, c'est très chaud.
C'est la température du corps humain, alors, même un peu de fièvre presque.
Oui, alors, c'est l'été chaud.
Donc vous êtes fébrile et c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Je disais en présentant cet entretien que nous allons avoir ensemble, Mère Marie-Elisabeth et Adrien Pelleranda, pour une fois ça n'est pas un livre de Marcel de Corte, ou plutôt pas un livre du seul Marcel de Corte, c'est un ouvrage à quatre mains, ou à deux voix comme vous voudrez, c'est Marcel et Marie de Corte. Alors, ma mère, qui est Marie de Corte ?
Marie de Corte naît Marie Panier, et l'épouse du grand philosophe, l'épouse de Marcel de Corte. Elle était une fille d'industriel. Monsieur Pelleranda, c'est peut-être ça mieux que moi. Une fille de négociant du Brabant, d'où est originaire aussi le philosophe Marcel de Corte, et il l'a épousé en 1929, donc il avait 24 ans. Et ensemble, ils ont eu 5 enfants, 3 garçons, d'abord Jacques en 1930, et puis 7 années plus tard, Léon, dont il sera question, en 1937. Ensuite, 2 filles, Anne-Marie en 1939, elle est décédée, Marie-Thérèse 1942 et Étienne 1943, et les 2 plus jeunes de ses enfants sont encore en vie.
Et c'est le seul livre où elle intervient aux côtés de son mari parce que, de fait, il est question de leur fils Léon. Adrien Pelleranda, vous qui dirigez donc cette collection Marcel de Corte, qui a pour but justement de bien faire connaître l'œuvre, Marcel de Corte n'a jamais écrit avec son épouse. C'est le seul livre qu'elle écrit à côté de lui.
Oui, tout à fait. Je pense que pour le grand public, c'est le livre le plus connu ou l'un des deux plus connu avec L'intelligence en péril de mort. C'est un livre dont la réédition était très attendue parce qu'il était puisé dans la dernière réédition que nous lui connaissions en 1969 aux nouvelles éditions latines. Et c'est un livre qui a tout de suite, dès sa parution, permis aux époux de Corte d'obtenir le prix des écrivains catholiques en 1956. Et c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho. D'une part, la famille de Corte était déjà assez connue, Marcel de Corte était déjà assez connu au moment de la mort de son fils, mais le fait que Marcel de Corte ait pu être en lien, par exemple, avec la famille royale de Belgique, à la mort de Marcel de Corte, la famille de Corte reçoit une carte de la famille royale et du roi Léopold de Troyes, et de très nombreux philosophes et personnalités connus vont se manifester auprès des deux Cortes au moment de la mort de leur fils et puis de la parution de l'ouvrage. Donc c'est un livre qui fait date et que nous avons le plaisir en ce 70e année d'anniversaire de sa parution de rééditer chez Aura Decima, en plus dans une très belle édition parce que il y a des images, il y a des photos.
Oui.
Et on doit remercier vivement la famille de Cortes de nous avoir ouvert ses archives privées pour enrichir le livre de très belles photos. Mais il n'y a pas que des photos. Et c'est principalement Mère Marie-Elisabeth qui a également enrichi l'ouvrage de notices historiques, de notices biographiques. Mais on s'est aussi associé avec un professeur d'histoire-géographie pour avoir une carte de la Belgique. Voilà, donc de nombreuses nouvelles choses dans ce livre « Deviens ce que tu es ».
Alors, ma mère, vous qui êtes une compatriote, on peut dire, de Marcel de Corte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce titre « Deviens ce que tu es » ? Ça n'est quand même pas un titre évident.
Oui, c'est sûr. Jean Guiton, qui louait le livre dans un article peu de temps après la mort de Léon qu'il avait rencontré, un article qu'il avait intitulé d'ailleurs « L'enfant d'acier ». Jean Guiton considérait que ce titre était un petit peu sibyllin. Alors, pour être honnête, mes jeunes élèves, vous savez que je suis professeure de philosophie en classe de terminale, quand mes jeunes élèves aperçoivent ce livre dans la bibliothèque, eh bien le titre les attire. Encore tout récemment, au mois de juin, elles sont allées voir leur future classe de philosophie et emprunter quelques lectures pour l'été. Il y en a qui, à peine vu le livre, m'ont dit « Mais et celui-là » Je dis, mais nous le lirons plus tard. Donc oui, ce titre, c'est en un sens le mystère de la liberté humaine, mystère de la nature humaine, c'est-à-dire que chacun a sa vie entre ses mains et il dépend de lui de la réussir. Bien sûr, on est déjà homme, mais la personnalité précise qui est la sienne, les qualités, l'individualité, disons la personnalité, tout ceci demande un développement. La nature est déterminée, mais l'agir est libre. Je pourrais dire qu'en un sens, c'est aussi la leçon qu'on trouve dans les romans de Solzhenitsyn, par exemple. Je pense au premier cercle, où les deux héros qui représentent le personnage de Solzhenitsyn, à mon avis, Nergine et Zologdine, tout prisonniers qu'ils sont, ont cette idée qu'il s'agit de faire quelque chose de leur vie. Donc, à mon avis, c'est bien cela le sens du titre. Il y a tout un donné initial à faire fructifier. Il faut actualiser en termes techniques, en termes
voilà.
historiques.
Au fond, ça serait « deviens en acte ce que tu es en puissance ».
C'est tout à fait cela, monsieur.
Alors, très aristotélicien.
Exactement. Donc là, on voit bien que c'est Marcel de Corse qui a composé cet ouvrage avec son épouse. Alors, juste pour éclairer nos auditeurs sur Radio Courtoisie, il est mort à quel âge, leur fils Léon, et de quoi est-il mort, Adrien Péranda?
Oui, alors, leur fils Léon a été frappé par la maladie de la poliomyélite à l'âge de 10 ans, et il est mort à 18 ans. Et ce qui rend sa vie si belle, c'est qu'il a véritablement vécu chrétiennement ses souffrances, et tout le livre est parcouru par la joie dont il rayonnait. Tous ceux qui l'ont connu, alors évidemment, d'abord ses frères et sœurs, ses parents qui l'ont côtoyé, tout au long du livre disent que jamais il ne se comportait en victime qui demandait d'être plaint. Bien au contraire, à chaque fois, il se souciait de la charge qu'il pouvait représenter pour sa famille. Et au-delà de ça, il continuait de jouer, il continuait d'écrire, de converser avec les membres de sa famille, ses cousins, ses amis. Il a continué d'étudier aussi. Il a continué ses classes, même si évidemment, pour l'essentiel de ces années, entre 10 et 18 ans, il les passait chez lui, et bien souvent d'ailleurs alité. Mais il donne vraiment l'exemple d'un jeune homme qui, face à la maladie, décide d'abord d'offrir et de la vivre pour s'élever. Vraiment, je crois que les époux de Corte mentionnent cela dans la première partie de l'ouvrage. Ils disent que finalement, reclus dans sa chambre d'hôpital ou sur son lit à la maison, il aurait pu se laisser progressivement tomber. Et en réalité, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il s'est élevé spirituellement et humainement aussi. Il était vraiment très édifiant. Sa vie est extrêmement édifiante.
Ma mère, je voudrais vous poser une question. Vous êtes professeur de philosophie. Vos oui. élèves ont l'âge de Léon. Comment réagissent-elles? Parce que, bon, si vous leur donniez un livre, je ne sais pas, sur un vieux philosophe rabougri, ça les intéresserait moyennement, elles auraient raison. Mais là, vous leur donnez un texte qui parle d'un garçon qu'elles pourraient avoir connu, puisqu'il a leur âge. Comment est-ce qu'elles réagissent?
Elles sont vraiment captivées par cette lecture. Elles sont 16-17 ans, on est toujours sorties de l'adolescence, elles sont éventuellement encore incertaines elles-mêmes, leur personnalité, leur avenir, leur capacité. Et puis en même temps, comme tous les adolescents, soucieux d'être soi-même, de se démarquer, avec ce besoin très humain d'un modèle, d'un idéal. Et nous avons ici l'idéal vécu, l'idéal incarné. Et puis elles sont chrétiennes, bien sûr. Donc elles vibrent, je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut employer. Elles sont captivées, elles admirent énormément. Je pense que jusqu'à un certain point, elles peuvent s'identifier avec lui. Elles reconnaissent ce qui est aussi leur quotidien. à savoir l'étude de la musique ou l'étude du poète latin Horace ou la littérature ou et puis ce sens de la famille, de l'amitié, de la camaraderie, de la joie. Donc c'est un livre, quand j'ai fait savoir autour de moi qu'il était, que nous le rééditions, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui l'avaient lu me disaient en avoir gardé un souvenir inoubliable, même plus de 40 ans plus tard. Et nos anciennes élèves, toutes, disent c'était vraiment un livre merveilleux.
Oui, je pense qu'on ne sort pas là aussi indemne d'une telle lecture. Donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai la joie de recevoir Mère Marie-Élisabeth et Adrien Pédéranda pour l'ouvrage de Marcel et Marie de Cor, Deviens ce que tu es, Léon notre fils, 1937-1955, avec une préface de Gustave Thibon. C'est paru aux éditions Aura Decima et on peut se procurer l'ouvrage pour 15 euros. Et comme vous le disiez, Adrien Pénéranda, il y a des photos très rares. Par exemple, on n'a pas énormément de photos de Marcel Decorte. Quand on veut illustrer un article, on a toujours, oui, dans un théâtre antique, c'est toujours à peu près la même photo qu'on ressort. Mais là, on le voit à côté de sa femme, à côté de leur fils. C'est assez extraordinaire. Et on a évidemment ce visage à la page suivante dans le cahier photo de Léon et cette phrase de Gustave Thibon, curieux et contemplatif, enjoué et recueilli, ouvert au monde et plongé en Dieu. C'est une belle définition que cette définition que Gustave Thibon donne de cet enfant handicapé infirme. Quels sont les liens entre Thibon et Decorte, Adrien Pédéranda?
Ils se rencontrent quand ils sont tous les deux de jeunes philosophes. Alors, Gustave Thibon est un peu plus âgé. Il est né en 1903, Marcel Decorte en 1905. Ils vont assez rapidement se retrouver tous les deux auteurs aux éditions. Marcel Decorte publie sa thèse de doctorat aux éditions Vrin, et lui et Gustave Thibon collaborent à des revues comme Études carmélitaines, revue d'ailleurs dont le directeur louera à de nombreuses reprises Léon Decorte et aura une correspondance avec Marcel Decorte. Et ce sont deux philosophes. Alors, Gustave Thibon, dans la correspondance très longue qu'il a entretenue toute sa vie sur plus de 50 ans, avec Marcel Decorte, dira que Marcel Decorte était comme la forme achevée de lui-même. Alors évidemment, Gustave Thibon est parfois excessif dans ses formules. Cela étant, ils avaient une amitié extraordinairement forte qui, à mon sens, était rattachée à leur réalisme. Tous les deux se reconnaissaient comme des réalistes, des disciples enfin, pour Marcel Decorte, de Saint-Thomas et d'Aristote, mais Gustave Thibon, pas exactement comme un disciple, mais plutôt comme quelqu'un qui cherchait à vivre comme un philosophe paysan enraciné. Ils se rencontreront très fréquemment. Gustave Thibon ira souvent voir les Decorte à Liège. Ils se verront aussi pendant des vacances en famille en Espagne. Et donc, il y a un attachement tellement important que les époux Decorte vont demander à Thibon de rédiger une préface dans laquelle je trouve il y a cette magnifique formule. Thibon dit que tous ceux qui croisaient la route de Léon lui demandaient de prier pour lui, parce que de prier pour eux, parce que véritablement Léon dégageait, enfin rayonnait. Quand Léon est mort, Thibon dit, il priait et maintenant il n'est plus que prière. Voilà, il avait la certitude que nous avions là peut-être un jeune saint qui pouvait ensuite prier pour nous qui sommes ici-bas.
Alors, ma mère, vous êtes, je l'ai dit, belge, donc compatriote de Marcel Decorte, et tout ce que j'entends, aussi bien d'Adrien Pédéranda que de vous-même, me réjouit, parce que grâce à vous, Marcel Decorte vit Ma grande inquiétude, et Adrien le sait, c'est que Marcel de Corde se retrouve au purgatoire des philosophes, comme il y a des purgatoires littéraires, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Et là, je vois que grâce à cette collection, grâce au travail que vous fournissez, parce que, je vous l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, vous êtes dominicaine, mais vous êtes aussi un peu bénédictine, puisque vous travaillez comme les bénédictins, avec acharnement, précision. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une illusion de la Bellerance, c'est ce que je viens de dire, ou effectivement, ça y est, on voit l'œuvre de Marcel de Corde qui a beaucoup apporté, à ma génération en particulier, cette œuvre se développe aussi auprès des jeunes générations. Et on lit encore, on redécouvre l'intelligence en péril de mort dont parlait Adrien Pelleranda tout à l'heure.
Je pense, oui, qu'il y a quelque chose qui se fait et nous espérons bien que notre collection y contribue. C'est évidemment son intention. Je dirais peut-être lentement, si j'ose citer Nietzsche, ils sont pourtant aux antipodes, Nietzsche disait « Je crois qu'il faut du temps aux actions quand elles ont été accomplies pour qu'elles parviennent jusqu'aux oreilles des hommes ». Lui parlait bien sûr de toute autre chose. En un sens, je dirais de même, les livres commencent à exister. Notre premier livre est sorti en 2022, il portait sur Descartes. Je vois surtout avec notre livre sur les mutations de l'Église catholique que maintenant un plus vaste public s'intéresse à ce qui a été fait, au moins à ce dernier livre, et qu'il reçoit davantage de publicité, si j'ose employer ce mot-là. Le but de notre côté étant bien sûr de susciter un intérêt de fond et d'aider à... comment dire, à réfléchir, à analyser le monde dans lequel nous vivons, d'aider à penser avec Marcel de Corde. Je dirais que c'est cela, c'est un professeur dans l'âme, et quand on le lit posément, il disait bien, il fallait prendre le temps pour le lire et pour pénétrer ses phrases, eh bien soi-même, on adopte le même cheminement, et donc qu'il nous éduque, qu'il nous apprend à penser comme lui, à ouvrir les yeux de l'intelligence. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose qui se fait, mais encore une fois, je dirais que c'est un peu lent, parce qu'il faut un certain courage, je ne le cacherai pas. « Deviens ce que tu es » est à mon sens facile à lire, captivant et facile. Les autres ouvrages demandent une certaine persévérance.
Alors, sûrement, je suis en train de relire l'intelligence en péril de mort que j'ai lu quand j'étais en Cagne, c'est-à-dire il y a quelques décennies. Je m'aperçois d'une chose, il faudrait peut-être, et là si un jour vous avez l'intention de le rééditer, je m'adresse aussi bien à l'un qu'à l'autre de vous deux, il faudrait peut-être mettre quelques intertitres ou quelques paragraphes, parce qu'en réalité cet ouvrage ce sont trois chapitres. Trois oui. Grosses parties, et je crains que l'attention des lecteurs ne soit un petit peu difficile à tenir, à soutenir, parce que vous disiez, oui, il faut le lire posément, il n'y a aucun doute, mais il faut peut-être le rendre plus facile. Alors, cette attention, que le soutien ne soit pas aussi difficile, parce que là, on entre dans la première page de je ne sais pas, le romantisme de la science, et puis il vous accompagne par la main, et y a pas, on ne reprend pas son souffle, on va jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, c'est-à-dire 50, 100 pages après.
C'est ça, il faut y passer le jour et la nuit sans s'arrêter. Oui, je suis d'accord. Mais vous voyez, dans les mutations de l'Église catholique, volontairement, nous avons mis ces intertitres.
Oui.
Il n'est absolument pas de Marcel de Corde. Nous avons fragmenté ces longs passages.
Voilà. Et ça, je crois que c'est une pédagogie tout à fait nécessaire. Enfin, je vous en félicite parce que je crois que c'est vrai que si on prend le livre et on se dit voilà, on entre dans un chapitre et on sort du chapitre, mais il n'y aura pas une seule pause, ça fera peur. Enfin, il me semble que et là, on voit que ce sont deux enseignants, une dominicaine enseignante et un universitaire qui sont derrière ce projet. Bien. Alors, puisqu'on parle de projet, on passe sur cette petite période qu'on appelle soi-disant les vacances, et où vous devez vous-même travailler, parce que c'est fait pour cela. Qu'est-ce que vous avez comme autre projet, Adrien Pedranda?
Oui, alors nous ne sommes pas que deux, puisque notre petite équipe autour de la collection Marcel Decorte s'enrichit. Et le prochain ouvrage qui va paraître est la correspondance entre le célèbre professeur thomiste toulousain Louis Junier et Marcel Decorte. Et cette correspondance est enrichie de notes et introduite par le professeur Cyril Douneau, qui, je l'espère, pourra lui aussi venir présenter l'ouvrage dès qu'il sera paru dans le courant de la rentrée, en tout cas avant la fin de cette année 2026. Et c'est également un ouvrage qui fera date, je pense, parce que suite à celui sur les mutations de l'Église catholique au XXe siècle, on va vraiment pénétrer dans l'intimité de deux grands philosophes qui partagent leur vue sur la très grave crise que traverse l'Église au XXe siècle. Et ils se soutiennent mutuellement, ils se réconfortent, mais aussi ils argumentent l'un l'autre et ils se confortent dans certaines analyses. Et donc c'est une correspondance inédite qui, voilà, en ces temps, l'année dernière c'était l'anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Je pense que la pensée de Marcel Decorte, comme celle de Louis Junier, est toujours très actuelle et donc permettra d'éclairer de nombreux lecteurs sur ce qu'il se passe encore aujourd'hui. Les ouvrages suivants, nous pouvons déjà les annoncer puisque il y a la préparation de l'essai sur la fin d'une civilisation qui lui sera une réédition d'un ouvrage dont on parle d'ailleurs dans les époux Marcel et Marie Decorte parlent dans « Deviens ce que tu es », puisque le professeur Decorte donne des conférences sur la philosophie de la civilisation et c'est un ouvrage qui lui aussi est visionnaire, comme l'intelligence en péril de mort. Donc pour comprendre le déclin et je dirais même la décadence de notre civilisation, revenir à cet ouvrage qui clôture un triptyque que Decorte avait publié pendant la Seconde Guerre mondiale sera extrêmement intéressant. Il y a un troisième ouvrage qui va paraître également, qui est son grand cours de philosophie du droit, donné en première année de licence à l'université de Liège, que lui-même appelait une introduction éthique au droit, et qui, comme le cours de philosophie de l'économie que nous avons déjà publié, sera un compagnon utile pour tous les étudiants qui veulent prendre de la hauteur par rapport aux questions juridiques dans le cadre de leurs études de droit. Voilà. Et il y a de nombreux autres ouvrages auxquels nous pensons et qui progressivement sont en préparation. Je pense notamment à un ouvrage qui réunira ses meilleurs textes sur la morale et la politique.
Bien, c'est merveilleux. Là, je suis tout à fait rassuré. On ne peut pas dire que Decorte risque de tomber dans l'oubli. Vous faites tout ce qui est nécessaire pour que on le connaisse et qu'on l'apprécie. J'entendais Adrien parler, bien sûr, de Louis Junier à l'occasion de cette publication de leur correspondance, Marcel Decorte, Louis Junier. Ma mère, vous me permettez de dire que vous êtes compatriote de Marcel Decorte et que vous avez la petite fille de Louis Junier parmi vos consoeurs.
Oui, c'est cela, tout à fait.
Donc, on est en famille. Et justement, vous qui êtes professeur de philosophie, Junier, ça dit quelque chose aux têtes blondes de Terminal?
Oui, alors, nous avons en bibliothèque son célèbre livre sur la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Il est un petit peu difficile pour elle, peut-être. Elles connaissent davantage problèmes et grands courants de la philosophie, dont les chapitres ne sont pas très longs. Oui. Ça, c'est une grande différence entre Junier et Decorte.
Absolument.
Junier, une écriture très synthétique. Également, Rudolf Aller sous l'anti-Freud.
Oui.
Qu'elles lisent assez volontiers, choquées qu'elles sont tout naturellement par les dérives de la psychanalyse. Voilà ce que je dirais, ce qui leur est leur plus fameux. Et puis, Doctrine politique, je ne suis plus sûre du titre exact.
Mais c'était son cours pour Sciences Po de Toulouse, c'était ça, Adrien Pinaronda. Donc c'est la spécialité de pouvoir nous dire ça, effectivement. Donc là, on peut dire que ces auteurs sont réhabilités, si je peux dire. Parce que j'ai eu peur, moi, à un moment, parce qu'on n'en entendait plus parler, qu'on se dise, ça y est, il y a un maillon manquant, on a perdu la chaîne. Au contraire, là, ça se maintient. Et je trouve, pour ma part, que, comme vous le disiez, les analyses, en particulier de Cort sur la crise de l'Église, n'ont pas pris une ride. On se demande même comment est-ce qu'il a pu écrire cela à cette époque-là. Nous constatons ce que lui prévoyait. Alors, prévoir, c'est toujours difficile. Constater, c'est subir, ça, c'est assez facile. Il y a quelque chose d'un petit peu prophétique, tout de même. Adrien Pinaronda, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il prévoyait juste?
Oui, alors, il était vraiment... On a parlé à son propos d'un aristotélisme chrétien. C'est le titre, d'ailleurs, de la thèse du professeur Danilo Castellano. Puisque Marcel de Cort fait quand même partie des très rares professeurs des universités et philosophes à avoir eu un doctorant qui soutienne et publie sa thèse de son vivant, et même, j'allais dire, alors qu'il était encore enseignant. C'était l'année de son départ à la retraite, en 1975. Marcel de Cort était à la fois un philosophe classique nourri à la pensée d'Aristote et de saint Thomas, mais qui était aussi moraliste et qui a su très très bien saisir les problèmes moraux de son temps. Et c'est vraiment ce qui fait son originalité, c'est qu'à partir d'analyse très profonde sur la question de l'intelligence chez Aristote, en suivant les commentaires de saint Thomas, l'interprétation de saint Thomas, il est parvenu, à la fin de sa carrière universitaire, à publier un ouvrage, donc L'intelligence en péril de mort, qui est un peu le fil rouge de sa carrière, mais montre à quel point il était capable de partir peut-être de certaines nuées philosophiques pour descendre au problème de l'homme de son temps. Et pas seulement, d'ailleurs, pour dénoncer les errements de l'homme de son temps, mais également pour offrir, on dirait aujourd'hui, des solutions, en tout cas, des voies pour recouvrer la santé. Et c'est notamment ses ouvrages sur les vertus qu'il a publiés aux éditions Dominique Martin Morin, les quatre vertus cardinales qu'il ne faut pas oublier dans sa bibliographie parce qu'ils sont toujours édités à l'heure actuelle et toujours très importants à connaître.
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous recevons Mère Marie-Élisabeth de Fangeau et Adrien Pinaronda, je peux simplifier en disant de Toulouse, pour Deviens ce que tu es, Léon, notre fils, de Marcel et Marie de Cort, paru aux éditions Aura Decima, qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et par correspondance pour 15 euros seulement. Ma mère, j'aimerais terminer sur le vocabulaire de Marcel de Cort. C'est vrai que les phrases sont un peu longues, il n'y a pas beaucoup de respiration, mais il y a des bonheurs d'expression, des trouvailles. C'est très pédagogique, à mon avis. On a l'impression de le voir enseigner, si j'ose dire, lorsqu'il dit que l'idéalisme encapsule le réel. Je trouve ça très bien. Ou lorsque, dans L'intelligence en péril de mort, il explique que un concept, ça doit être compris comme la conception. Et il faut que l'intelligence épouse le réel, sinon, il ne le dit pas, mais c'est moi qui le dis, c'est une espèce de grossesse nerveuse, il n'y a pas du tout de réel, donc ça va être une chimère, si on veut. Est-ce que les enfants que vous formez comprennent aussi et voient, enfin, parce que je trouve qu'il a un vocabulaire très précis et en même temps très enraciné dans les choses de la vie?
Je ne sais pas si à l'âge qui est le leur, elles ont ce regard-là. Je crains qu'il faille dire le contraire. Enfin, je ne leur demande pas, cette année j'y penserai, je leur demanderai. Je ne suis pas sûre qu'elles y prennent garde. En tout cas, Deviens ce que tu es ne leur apparaît pas difficile à dire, c'est sûr. Certainement pas. Moi, je suis très sensible à cette verve de Kurt, même
Oui.
dans les articles les plus sérieux. C'est vrai, quand il ose écrire que tel ou tel évêque se prend pour Dieu, par exemple, voulant simplement dire qu'il a une philosophie démente qui est telle qu'en fait, dans son subjectivisme, il prend la place de Dieu. C'est vrai, mais je ne suis pas sûre qu'à 16 ou 17 ans, les élèves analysent cela. Je pense qu'il faut plus de maturité.
Mais je pense qu'à la fin de l'intelligence au péril de mort, par exemple, l'analyse du fantôme de Combreux, vous savez, elles doivent peut-être se dire, tiens, là, il y a une exégèse intéressante de Chateaubriand, non?
Oui.
Là, et je pense qu'elles peuvent peut-être se retrouver un petit peu. Si,
Oui,
c'est vrai. Alors ça, nous n'en disons pas plus. Et il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie se reportent aux ouvrages de Marcel de Korth. On a parlé de Korth. Maintenant, il faudra que vous laissiez parler de Korth en vous et que vous le lisiez. Un grand merci, ma mère. Un grand merci, Adrien Pedéranda, pour cet entretien. Et puis, nous nous retrouvons parce que ça va sans dire. Vous êtes là tous les trois avec Cyril Douneau la fois prochaine.
merci, monsieur l'abbé.
À
Merci
bientôt.
beaucoup, monsieur
Merci
l'abbé.
beaucoup.
À très
Bonjour.
bientôt.
Chers amis de Radio Courtoisie, une information très importante.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers amis, vous avez entendu, c'est important parce que cette liberté d'expression est rare. Et si elle est rare, elle est donc chère. Et donc, vous pouvez nous aider. N'oubliez pas Radio Courtoisie pendant l'été. Ne nous abandonnez pas sur une aire d'autoroute, comme certains font avec leurs animaux domestiques. Nous avons besoin de votre soutien et je sais qu'on peut compter sur vous. D'avance, un grand merci. Jean-Pierre Maugendre, bonjour.
Bonjour Monsieur l'Abbé, bonjour à tous.
Alors, j'ai la joie de vous voir de l'autre côté, parce qu'habituellement, c'est vous qui me recevez dans un autre studio.
Cela arrive.
Et vous êtes sur TV Liberté. Alors, vous avez pu remarquer la grande différence entre TV Liberté et Radio Courtoisie. C'est qu'on ne vous a pas demandé de vous enduire d'un fond de teint. Vous n'êtes pas maquillé, vous êtes tel que vous êtes. Tandis que moi, quand je passe pour parler de l'actualité religieuse, comme vous avez la gentillesse de m'inviter de temps en temps, ou monsieur l'abbé du Verger pour parler du pèlerinage, là, nous sommes enduits.
Exactement.
Mais là, on est très content de vous voir. Vous allez nous dire, avant de nous parler de l'ouvrage pour lequel je vous ai demandé de devenir la nouvelle droite en question. Un petit mot tout de même sur cette collection, parce que c'est le troisième volume. Il y a un titre et ça se termine toujours par en question. Il y avait l'obéissance en question, la lecture en question, la nouvelle droite en question. Et parce que je suis un petit peu curieux, je me suis aperçu qu'il allait y avoir bientôt la royauté du Christ en question et qu'une certaine Madeleine Villain, que vous devez connaître,
un petit peu, nous voyons de temps en temps.
Il me semble, va faire quelque chose sur l'héritage de la Grèce antique en question. Quel est le but de cette collection?
Alors, c'est une initiative de l'éditeur Via Romana, donc de Benoît Mancheron. L'analyse est de dire qu'aujourd'hui, en particulier, le public le plus jeune a vraiment du mal à lire des ouvrages un petit peu copieux, un petit peu complets, qui font plusieurs centaines de pages. Et donc, l'idée, c'est clairement, sur un sujet, non pas de faire un point exhaustif, parce que on ne fait pas un point exhaustif en 100 pages, mais de livrer des pistes de réflexion dans un format accessible. Voilà, ça tient dans la poche de tout le monde. Ça fait 100 ou 120 pages. Ça se lit en 1 heure et demie ou 2 heures. Voilà, l'objectif, c'est clairement le public le plus jeune qui a du mal à faire un effort de concentration sur des ouvrages qui seraient plus copieux.
Et là, vous retrouvez une intuition qui fut celle de Madiran à la fin de sa vie. Lui-même, je l'ai vu un peu avant sa disparition. Il disait on ne peut plus écrire des ouvrages de 250 pages. Si on veut être lu, il faut faire des petits formats. Et de fait, à la fin de sa vie, il écrivait des petits livres.
Et il avait fait aussi, vous le savez, un temps pour les gens qui n'avaient pas le courage, la capacité, les moyens financiers de s'abonner et de lire itinéraire. Il y avait un supplément voltigeur. C'est-à-dire que, en quatre petites pages qui paraissaient régulièrement, vous avez la synthèse sur un sujet prenant acte de la difficulté de nos contemporains à suivre des travaux plus élaborés et plus copieux.
Alors, est-ce que vous avez un retour avant de nous intéresser à la Nouvelle Droite, est-ce que vous avez déjà un retour? Est-ce que un public se crée? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah oui, alors, moi j'aurais pas lu quelque chose sur la lecture en plus, en 300 pages, mais là, en 70 pages, c'est possible ?»
Alors, ce qui se passe sur la lecture, ce que j'observe, c'est en particulier, j'ai été sollicité et je continue à être sollicité et je suis disponible, donc, pour ceux qui ne m'ont pas encore sollicité, pour intervenir auprès d'écoles, puisque en particulier auprès de lycées, puisque seconde, première, terminale, c'est le moment où se prennent les habitudes. Et je crois que je suis intervenu dans des écoles auprès des lycéens et puis également auprès des parents qui se demandent comment, alors eux-mêmes parfois ayant des difficultés à lire, mais ayant au moins en intention la volonté d'accompagner leurs enfants dans leur lecture et qui sont demandeurs d'explications, comment s'y prendre. Et puis également, c'est la dernière partie du livre, quelques livres sur quelques sujets. Voilà, donc là je crois qu'il y a une demande en ce sens. La question de l'obéissance, alors c'est un petit peu une des caractéristiques de la collection. Voilà, le premier volume, il est sur l'obéissance. Je crois qu'aujourd'hui, l'obéissance est vraiment une question essentielle et souvent trop négligée. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que l'obéissance, elle se rattache à la vertu de justice. Voilà, les vertus cardinales, c'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. L'obéissance n'est pas une vertu cardinale. Et dans ce petit travail, je l'évoque à partir d'exemples, l'obéissance dans la société civile et dans l'Église, ça n'est ni une obéissance servile, ni du libre examen. Voilà, il faut trouver un juste milieu entre ces deux excès, et on est bien obligé de constater que selon les tempéraments, il y a l'obéissance servile ou le libre examen.
D'accord, le Périndac cadaver, c'est ça.
Voilà, des jésuites.
Alors, nous sommes là pour la Nouvelle Droite en question, qui vient de paraître. Alors, là, c'est un petit peu plus copieux. Il y a une belle enquête, c'est très documenté. Vous avez vu un petit peu qui intervient, sur quoi, etc. Et parce que vous pensez qu'il y a une nécessité aujourd'hui à faire connaître.
Alors, l'actualité, donc l'obéissance, on l'a dit tout à l'heure, c'est la société civile et l'Église qui nous confrontent à ça. Et sur la question de la Nouvelle Droite, ce qui a suscité mon intérêt, c'est aujourd'hui un certain nombre de jeunes filles, face à l'échec de la modernité, se réapproprient ce que l'on pourrait appeler globalement un réflexe identitaire. Voilà, c'est-à-dire ils veulent renouer avec les racines de la France, et puis également, c'est le terme qui est souvent employé, ils veulent retrouver une communauté. La société moderne se caractérise par un grand individualisme, chacun mène ses affaires indépendamment des autres, et face à l'échec de cette modernité, un certain nombre de gens aspirent à se réapproprier l'identité de la France et à s'associer à des communautés. Et dans ce cadre-là, pour beaucoup, les thèmes développés par la Nouvelle Droite apparaissent comme tout à fait attrayants, puisque effectivement, ce sont des communautés, au sens de communautés solidaires, avec une certaine esthétique, avec une envergure intellectuelle, avec des organisations qui sont des organisations efficaces. Et donc, je crois qu'il y a un certain attrait. Et donc, dans ce petit travail, nous avons cherché à faire trois choses. D'abord, dans la nature, comme dans le domaine intellectuel, la génération génération spontanée n'existe pas, c'est-à-dire que ce qu'est ce courant de pensée aujourd'hui, il est le fruit de l'histoire, c'est une première partie. Le fruit de l'histoire, ce sont des événements, ce sont également des penseurs. Je pense à des gens comme Louis Rougier, Frédéric Nietzsche, Julius Evola, René Guénon, voilà, qui influencent ce courant intellectuel. Donc il y a un premier aspect qui est un aspect historique, et puis il y a un deuxième aspect qui sont, par rapport au catholicisme, par rapport à la tradition chrétienne de la France, quels sont les points de convergence, parce qu'il y en a, et puis aussi quels sont les points de divergence, car il y en a, et en particulier sur des questions majeures. À la fin de ce travail, je cite un texte de Jean Madiran, où globalement, ce qu'il développe est la chose suivante, voire avoir ou ne pas avoir la foi, c'est une question personnelle. La foi est un don de Dieu, c'est une vertu théologale, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir la foi, voilà, c'est un fait, c'est un don qu'il n'a peut-être pas reçu. Mais en revanche, Jean Madiran explique, ce sur quoi nous devons nous accorder, c'est que le combat pour la chrétienté, le combat pour qu'il y ait des institutions conformes à la loi naturelle et conformes à la volonté de Dieu, pour un pays comme le nôtre, conforme à notre histoire, ça c'est indépendant de la foi. Et il conclut en disant un certain nombre de ces maîtres penseurs, de ces intellectuels de la Nouvelle Droite, ils n'ont pas la grâce de la foi, c'est une chose, mais ils se posent également en adversaire de la chrétienté, et ça c'en est une autre.
Mmh. Alors, je vais vous poser une question. Il se trouve qu'on parlait beaucoup de la Nouvelle Droite lorsqu'elle est née, en particulier avec l'ouvrage d'Alain Benoît, Vue de droite. Ce qu'il y a, je me permets de le dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, ce qui a donné le nom, à contrario, de la revue de l'Institut universitaire Saint-Pédis que je dirigeais à l'époque, qui s'est appelée Vue de haut. Et le premier numéro était consacré à cela. Alors, il y avait malheureusement beaucoup d'universitaires aujourd'hui disparus, Jean-Pierre Brancourt, Hubert Guillotel, Claude Rousseau, Claude Paulin et Jean de Vigry. Jean de Vigry qui avait justement un article, Christianisme, force et idéal social. On avait repris d'ailleurs, c'est un petit peu comme les actes d'un colloque qui s'était tenu justement sur la Nouvelle Droite. Quelle est la différence entre l'influence de la Nouvelle Droite aujourd'hui, vous dites en pleine crise de postmodernité où on cherche des identités, etc., et ce que nous avions, nous, dans les années 80 est-ce que c'était...
Dans les années 80, je crois qu'il y a un élément notablement différent de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sort d'une période, puisqu'elle démarre en 1979, où en fait la Nouvelle Droite dispose d'une caisse de résonance tout à fait impressionnante dans le cadre du Figaro Magazine. De Louis Powells, voilà. Bon, donc Louis Powells, qui n'est pas membre de la Nouvelle Droite, mais qui en est proche, fait appel, alors d'abord en demandant des collaborations à Alain de Benoît sur des chroniques cinématographiques, et puis ensuite en lançant la formule du Figaro Magazine, avec en particulier Jean-Claude Vallat, avec Patrice de Plainquette. Voilà, on a là, pendant plusieurs années, un média grand public, puisqu'on va monter jusqu'à 600 000 exemplaires par semaine du Figaro Magazine, où on a un média grand public qui diffuse les thèmes de la Nouvelle Droite, c'est-à-dire une exaltation de l'Europe, une exaltation des valeurs viriles. Également, alors, dans le public du Figaro Magazine, c'est moins évident que dans d'autres publications, par exemple que dans Éléments. Également, une apologie du paganisme et puis un refus du christianisme. Voilà. Il me semble qu'une des différences majeures, c'est ça. C'est qu'à l'époque, il y a un média qui tire à 600 000 exemplaires qui véhicule les thèmes de la Nouvelle Droite. Alors qu'aujourd'hui, les deux moyens de communication essentiels, les deux vecteurs identifiés de la Nouvelle Droite, c'est la revue Éléments, donc qui est une revue mensuelle, qui est une revue de grande qualité, dont l'éditorialiste est Alain de Benoît, donc qui paraît tous les mois. Et puis, le deuxième élément de cet ensemble, c'est bien sûr l'Institut Iliade, qui organise, donc pour la longue mémoire européenne, alors on a plusieurs fois parlé d'Alain de Benoît, qui lui se présente dans la filiation intellectuelle de Dominique Vénère, et qui organise tous les ans donc un colloque annuel à la Maison de la Chimie, qui est très réussi. Voilà, il y a 1500 personnes, beaucoup de jeunes, des conférences de grande qualité, une très bonne ambiance. Voilà. Mais on est quand même, voilà, 1500 participants, une revue dont je ne connais pas la publication, mais c'est sûrement pas 30 000 exemplaires. Ça n'a rien à voir avec une publication qui tire à 350, 400, 500 ou 600 000 exemplaires. Donc on a quand même, je dirais, une différence de rayonnement importante par rapport à ce que vous évoquiez.
Alors, on dit qu'ils veulent faire du métapolitique. En soi, c'est intéressant.
Alors, tout à l'heure, on parlait de l'histoire. Le métapolitique, c'est la conséquence de deux échecs. Un échec, je dirais, insurrectionnel, puisqu'en fait, toutes les équipes fondatrices de la Nouvelle Droite, on peut penser aux gens qui seront à Europe Action, à la Fédération des étudiants nationalistes, ont tous été des militants de l'Algérie française et ont donc, d'une manière ou d'une autre, participé à une tentative de prise de pouvoir dans le cadre de l'OAS ou d'autres organisations. Ça a été un échec. Voilà, ils vont tous faire de la prison, d'ailleurs. Dominique Vénère, tout ça, ça va faire de la prison. Jean Mabir. Et puis, donc, un échec insurrectionnel, un échec politique. L'échec politique, c'est le soutien à la candidature de Jean-Louis Tixier-Vignancourt en 1965, donc qui fait un peu plus de 5% des voix, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux espérances. Et donc ces gens disent, voilà, le terrain insurrectionnel militaire est bouché, le terrain politique par l'élection est bouché, ben, il ne nous reste qu'une chose, c'est de faire du métapolitique, c'est-à-dire d'essayer d'influencer l'opinion public, les décideurs, d'essayer de répandre nos idées, et puis un jour ou l'autre, ayant changé les mentalités, alors c'est l'expression qu'on emploie aussi, elle n'est pas toujours très positive, on parle d'un gramscisme de droite, en disant, voilà, commençons par changer les mentalités, par une propagande intense, par des travaux intellectuels de qualité, et le reste suivra. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure que c'est l'histoire, ce sont les événements qui, d'une certaine manière, conditionnent nos choix, je crois qu'on en a là un bon exemple.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois Jean-Pierre Maugendre pour La Nouvelle Droite en question, paru aux éditions Via Romana, un ouvrage de 112 pages qu'on peut se procurer pour 12 euros. 112 pages, 12 euros, ça rime, c'est tout à fait évident. Alors, est-ce que vous avez l'impression, quand on vous lit, qu'au fond, ils posent quand même quelques bonnes questions, mais ils n'ont pas les bonnes réponses?
Alors oui, ils posent des bonnes questions. Ils posent des bonnes questions, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans les rapports à la modernité. Voilà, c'est en particulier une critique très forte de la Révolution française. Voilà, c'est un trait caractéristique. De l'égalitarisme, voilà, ils sont partisans vraiment de systèmes inégalitaires. On dit pas inégalitaires. Alors, ce qui va jouer en particulier un rôle, ça peut surprendre nos auditeurs, dans les auteurs de la Nouvelle Droite, il y a une fascination pour l'Inde. Cette fascination pour l'Inde qui repose, à mon sens, sur deux choses. On a là effectivement une société totalement inégalitaire, avec un système de caste. Et puis également, c'est une idée très importante, me semble-t-il, pour les déo-droitistes, il n'y a pas de vérité universelle. C'est-à-dire que pour un chrétien, il y a des vérités universelles qui sont des vérités intellectuelles, accessibles à la raison. Et puis, ces vérités universelles s'incarnent en particulier dans le catholicisme, qui est une religion qui appelle tous les hommes au salut. Alors que c'est un thème important de la Nouvelle Droite, c'est l'idée qu'il n'existe pas de vérité universelle, que chaque peuple a son histoire, correspond à sa civilisation, à sa religion, et qu'en fait, ce qui est demandé, c'est que les civilisations cohabitent pacifiquement les unes avec les autres, Mais il n'y a pas, y a pas une religion universelle. Chaque peuple a sa religion, d'où la fascination pour l'hindouisme, que l'on retrouve chez plusieurs auteurs, qui est la religion des hindous, qui est la religion des indiens. Voilà, on a des textes de Dominique Vénère que j'ai lus, etc., où il fait l'apologie du BJP. Le BJP, c'est le parti nationaliste hindou, et ben il dit ça, c'est très bien. Voilà, nous... Il faut que nous nous approprions, de la même manière qu'ils se sont appropriés leur religion traditionnelle, qui est l'hindouisme, nous devons nous réapproprier notre tradition originelle, et c'est le paganisme. Alors avec un curieux mélange, qui est un paganisme qui a deux sources, qui a d'une part, alors c'est le maître livre, hein, c'est l'Iliade et l'Odyssée, voilà, il est sorti hier un film sur l'Odyssée, donc on verra de quoi il en retourne. Donc avec deux, entre guillemets, ce paganisme, il s'abreuve à deux sources. Le paganisme antique, c'est le serment de Delphes, qui est prononcé en 1979, dont je donne à nos auditeurs voilà, uniquement le début. « Nous, Hélènes, Italiens, Belges et Français, rassemblés aujourd'hui sous le signe d'Apollon, et parlant au nom de tous nos frères européens, nous jurons d'œuvrer de toute notre énergie et de toute notre volonté à la renaissance de la culture européenne. » Voilà. Donc une première source, c'est l'Antiquité grecque. Et puis une deuxième source, c'est l'Antiquité nordique. Et en particulier, qui sera bien illustré, bien mis en œuvre par un auteur régionaliste normand, qui est Jean Mabir. Voilà, il y a chez ces auteurs, dans cette famille d'esprit, voilà, une fascination. Voilà, les militants qui portent le marteau de Thor à la base d'une croix, etc. Voilà, une double fascination pour le paganisme. Alors, le paganisme qui doit être conçu non pas comme le fait de croire est-ce que Thor existe, est-ce que Bélénos existe, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est le lien avec la nature. Voilà, c'est le primat de la nature, et donc il existe, on le voit bien dans Éléments, d'ailleurs, toute une écologie de droite qui est le respect de la nature, le lien à établir avec la nature, et avec deux conséquences. Une première conséquence dans le lien avec la nature, c'est le culte de la force. Parce que dans la nature, eh ben, les gros mangent les petits. Et donc, il y a une cohérence intellectuelle. Et puis, le deuxième aspect aussi, la nature, c'est l'exaltation de la vie. Et cette exaltation de la vie, c'est aussi, bien sûr, l'exaltation de la sensualité, de l'asexualité, ce que certains auteurs de cette famille d'esprit appellent l'érotisme sacré. Voilà. Donc, le culte de la force, le culte de la vie, avec peu de place pour les petits, pour les malades, pour les faibles, voilà, qui est une caractéristique. Alors, et aussi l'oubli, voilà, j'ai lu, il vient de paraître un autre livre écrit par un sympathisant de la Nouvelle Droite, là, un volume en 550 pages, la Nouvelle Droite, son histoire, etc. Je crois que pas une fois dans les 550 pages n'ai employé le mot pardon. Voilà. Or, il me semble que ce qui caractérise notre civilisation issue du christianisme, c'est le pardon. Voilà, je crois que cette famille d'esprit, ce monde dont je viens un peu de chercher à discerner les origines, il est étranger au pardon.
Et alors, ce qui est le plus frappant, j'ose le dire, dans votre ouvrage, c'est l'annexe. Parce que là, vous avez fait évidemment un petit peu, si je veux dire, la profession de foi païenne, et quelqu'un qui en a vécu, quelqu'un qui l'a, et qui découvre la grâce. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu
alors,
un mot ?
Alors, l'annexe, c'est la conversion de Guillaume Fay. Alors, Guillaume Fay, c'est la... pas la caricature, c'est l'archétype. C'est un homme extrêmement brillant, extrêmement intelligent, extrêmement actif, avec un vrai rayonnement, qui va faire des allers-retours avec le Grèce, puisque l'organisme le plus connu, intellectuel, maître d'œuvre de tout ça, c'est le Grèce, le groupement de recherche et d'études de la civilisation européenne. Donc il va en faire partie, il va se brouiller avec eux, il va revenir, enfin voilà, il y a un certain nombre d'allers-retours. Et ensuite, comme c'est un garçon qui a des capacités tout à fait au-dessus de la moyenne, il va animer une émission de radio sur Skyrock, bon, qui n'est pas tout à fait ce à quoi où on s'attendrait à trouver des gens proches de notre famille d'esprit. Et là, il va mener une vie de tous les excès. Il le dit d'ailleurs, donc c'est tous les excès, la drogue, l'alcool, la sexualité. Et bah, il se retrouve aux environs de 60 ans. C'est un homme qui est ravagé, qui est, alors, j'ai bien sûr eu des contacts avec des gens qui l'ont connu, voilà, qui est un homme épuisé, plus qu'épuisé même, ravagé par des années de vie, je dirais, déséquilibrée. Et là, il est saisi par la grâce. Il est saisi par la grâce, il est mis en contact avec un père d'Avrier, par le père Innocent Marie, avec un monsieur. Le père Innocent Marie n'étant pas à Paris, il lui envoie son collègue de séminaire, donc est l'abbé Petrucci. Donc,
qui fut curé de Saint-Nicolas,
donc est près de la fraternité Saint-Pilice, et il mène avec Guillaume Fay des réflexions intellectuelles pendant longtemps, des débats, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi c'est une caractéristique, et c'est une vraie réflexion pour nous, l'histoire a montré, voilà, on a dans ces équipes, d'une part, des intellectuels de très haut niveau, voilà, Dominique Vénère c'est pas rien, Alain de Benoît c'est pas rien, Guillaume Fay c'est pas loin, des organisateurs hors pair, voilà, je pense à Jean-Yves Le Gallou, je pense à Philippe Millot. Et donc, Guillaume Fay, donc, il débat avec l'abbé Petrucci, ça dure longtemps. Et puis, il finit, entre guillemets, par se rendre à la grâce pour être finalement baptisé, puisque l'abbé Petrucci, à ce moment-là, n'était pas à Paris, par l'abbé Claude Barthes, que l'abbé Petrucci avait sollicité. Et je crois que c'est un point important parce que, évidemment, cette conversion n'a pas été appréciée de tous ses petits camarades. Et certains disant « Oui, mais voilà, c'est toujours pareil, les curés, ils s'attaquent à quelqu'un qui n'a plus ses moyens intellectuels, qui est très faible. » Ce serait peut-être vrai, je dirais, sur un coup de tête, mais je crois l'intérêt de ce petit témoignage, c'est de montrer que c'est une démarche qui s'est déroulée sur le temps long, et que c'est donc une décision qui est prise en toute, je dirais, en toute clarté, en toute sincérité, en toute honnêteté, quoi. C'est pas un coup de tête. Et je crois aussi, voilà, c'est un bel exemple. Voilà, il faut, bon, parce que être journaliste à Skyrock, c'est pas l'annexe des enfants de Marie, quoi. Hein. Et voilà, la grâce. Mais déjà, je parle sous le contrôle du clergé. Voilà, la grâce est toute puissante, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on a voulu. Alors, ce texte était déjà paru dans deux publications. Il était paru dans Lecture française et puis il était paru dans Le Sel de la Terre, la revue des Dominicains. Bon. Et on a, pour des raisons, mais aujourd'hui un certain nombre de protagonistes ne sont plus là, etc. On a donné les noms des protagonistes alors que dans le texte originel, ça n'y était pas.
Eh bien, je crois qu'il faut lire ce livre. Vous nous avez donné suffisamment d'aspects suggestifs pour qu'on ait envie d'aller le lire. Donc, je redis, Jean-Pierre Maujean, La Nouvelle Droite en question, Via Romana, 12 € dans toutes les bonnes librairies, à commencer par le comptoir des monastères. Et on attend la suite. Madeleine Villain en particulier.
Voilà, alors Madeleine Villain, vous avez parlé d'un, il est fini, on attend pour le diffuser, mais après l'héritage de la Grèce antique, elle est en train de travailler sur l'héritage de la Rome antique.
Parfait, alors on l'attend deux fois. Merci, à bientôt, chers amis.
Merci, monsieur l'abbé.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions créé par Claude Giraud et dirigé par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 16 juillet 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.